L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Alors, nous voilà après avoir abordé 4 émissions sur la préparation au mariage, les fiançailles, etc. Nous abordons là une nouvelle série d'émissions, Maud, avec donc 4 émissions qui vont être consacrées à la vie dans l'esprit en tant que couple.
Voilà, et pour commencer cette première émission sur l'Esprit Saint, nous prenons le texte de Nicodème.
Voilà, et nous allons avec ce texte introduire le thème sur le caractère vraiment indispensable de la vie dans l'Esprit Saint pour nos couples chrétiens. Pas simplement des couples qui sont unis dans la foi au Christ et dans la foi de l'Église, mais qui vivent et qui font fructifier cette vie par l'Esprit Saint. Donc, Maud, ce texte avec Nicodème.
Nicodème, un notable juif, vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. »
Voilà, alors c'est un texte absolument magnifique sur cette introduction des hommes dans le royaume de Dieu, dans la vie avec Dieu, dans cette bénédiction du Seigneur, qui bien sûr nous attendra dans la vie éternelle, mais qui dès aujourd'hui, nous pouvons rentrer et expérimenter ce royaume de Dieu, entrer dans ce royaume de Dieu, qui est entrer dans la vraie vie, qui est la vie chrétienne, à la suite et avec le Christ. Et la porte d'entrée de ce royaume, c'est bien sûr le Christ lui-même, mais le vecteur principal, c'est l'Esprit Saint qui nous transporte personnellement.
Oui, c'est étonnant d'ailleurs que dans ce texte, on remarque que Jésus nous dit qu'on ne peut pas voir le royaume de Dieu si on n'est pas dans l'Esprit Saint. Donc si on ne veut pas voir, ça veut dire qu'on ne peut même pas lire les traces du royaume dans notre vie. Donc l'Esprit Saint, en fait, va nous donner la capacité aussi de voir, si je puis dire, derrière les apparences, les faits bruts, le sens profond des choses. Et c'est l'Esprit Saint qui va éclairer notre cœur, notre intelligence, et qui va nous permettre de changer de regard sur les événements et sur les choses. Et c'est pour ça que cet Esprit Saint, c'est vraiment, comme disait Séraphim de Sarov, hein, Starets russe très connu, qui a eu des entretiens avec un laïc, Motovilov, il lui disait « le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit ». C'est vrai que c'est quelque chose qui nous semble assez, je dirais, peu palpable, Alex, difficile à comprendre, mais c'est pourtant ça, le but de la vie chrétienne.
Important, Jésus précise bien, je dirais, les deux clés d'entrée pour renaître, pour habiter ce royaume de Dieu, entrer dans le royaume. Il faut renaître de l'eau et de l'esprit. L'eau, c'est le baptême, c'est quand on pourrait dire, on peut faire une comparaison, le moteur, c'est vraiment la clé d'entrée. Mais ce moteur ne sert à rien s'il n'est pas alimenté par un carburant qui est l'Esprit Saint. Donc vraiment, rentrer dans la vie chrétienne, rentrer dans la vie du royaume en tant que personne et aussi en tant que couple, cela ne peut se faire que par la foi et par l'accueil de l'Esprit-Saint. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important, où l'Esprit-Saint vient comme faire fructifier en nous le trésor qui nous est donné par le baptême. Et pour l'aspect conjugal, c'est notre sacrement de mariage où l'Esprit-Saint vient vraiment faire fructifier ce trésor du salut qui nous est donné.
Voilà, donc c'est tout ça, tout ce que nous allons essayer de décrire, c'est ce que l'Église a toujours appelé la vie dans l'esprit. Alors comment avoir une vie dans l'esprit en couple et pour renouveler justement le sacrement de mariage? Repartons, Alex, peut-être de l'expérience justement du salut qui est donné et que l'Esprit-Saint fait quelque part active et rend efficace.
Oui, alors c'est là où il faut tout de suite bien identifier les conditions de cet accueil de l'Esprit-Saint. C'est d'abord avoir foi ensemble, en tant que couple, en tant que personne et en tant que couple, dans l'œuvre de Christ et de l'Esprit-Saint. Crois et tu seras sauvé, dit la parole. Donc cette question de la foi est essentielle. Et puis la deuxième question, Maud, c'est d'être transformé par l'amour du Christ.
Voilà, c'est d'être amoureux, si je puis dire, de l'amour que l'on ressent pour le Christ. C'est-à-dire c'est d'être bousculé par vraiment une ardente attente, je ne sais pas trop comment le dire, mais qui nous pousse vers ce Christ. De la même façon qu'on est tombé amoureux de l'autre et que vraiment notre vie avait une toute autre couleur parce que...
Et ça fait basculer nos vies, nos cœurs, etc. Et on a souvent l'habitude de dire, Maud, avec le Christ, c'est pire.
C'est pire, voilà. Donc voilà. L'expérience de l'amour de Dieu vraiment comme un feu qui nous embrase et à la fois la certitude de la foi, ce sont les deux clés nécessaires pour vraiment laisser l'Esprit-Saint commencer à pouvoir agir.
Agir et nous transformer de l'intérieur. C'est là où justement, à cause de cette foi, à cause de cette expérience amoureuse du Christ, qu'à ce moment-là, nous pouvons regarder notre péché. Nous avons la lucidité de le faire, parce que nous pouvons accueillir sa miséricorde. Celui qui ne connaît pas l'expérience du Christ a beaucoup plus de mal. Il va bloquer par rapport à son péché. Il va culpabiliser à la fois, et à la fois refuser son péché, et à la fois d'être complètement culpabilisé. Alors que justement, l'expérience chrétienne nous fait accueillir la miséricorde, nous fait regarder, je dirais, moins douloureusement notre péché, pour pouvoir être transformé par son amour, par son pardon.
Voilà, alors l'inquiétude souvent quand on parle de l'Esprit-Saint, c'est qu'il y en a qui pensent que ça va nous faire décoller sur une planète mystico-rêvée. C'est très clair, l'Esprit-Saint, c'est bien sûr que c'est un esprit, mais notre Christ et notre Dieu s'est incarné et nous sommes dans une religion où tout passe par la relation, par le corps, par la vie. Et l'Esprit-Saint ne nous détache pas de la vie, il nous permet au contraire de vivre avec plénitude notre quotidien, parce qu'on a aussi un regard visionnaire sur ce qu'on fait.
Voilà, et puis deuxième aussi écueil possible, c'est de se dire, mais oui, mais finalement, c'est faux tout ça, on n'est pas entièrement libérés. Effectivement, nous serons vraiment totalement libérés dans la vie éternelle, mais par contre, ici-bas, nous faisons l'expérience déjà de rentrer dans le royaume de Dieu, mais on pourrait dire comme par à-compte. C'est-à-dire que c'est un travail progressif, tout n'est pas réglé, on reste pécheur, il y a une progression, donc il y a une durée des aléas, des hauts et des bas, etc., dans cette expérience du royaume. Mais déjà, nous pouvons goûter les à-comptes.
Voilà, et si nous regardons dans la parole de Dieu, les personnes qui ont vraiment accueilli l'Esprit-Saint, comme par exemple la Samaritaine, elle avait vraiment soif. Et je pense que c'est aussi une chose importante, être vraiment un homme et une femme de désir, c'est-à-dire désirer l'Esprit, désirer sa venue, désirer être embrasé d'amour pour le Christ.
Voilà, c'est comme la Samaritaine qui, Seigneur, donne-moi à boire, donne-moi à boire. Est-ce que nous sommes hommes et femmes de désir? Est-ce que nous sommes des couples de désir vis-à-vis du Seigneur? Est-ce que nous implorons? Est-ce que nous creusons en nous cette soif de l'eau vive de l'Esprit-Saint dans nos vies?
Voilà, il nous faut aussi crier vers l'Esprit pour qu'il puisse venir et intervenir dans notre vie. Crier comme les aveugles, Alex, on a déjà parlé de ce texte.
On avait commenté dans une émission précédente cet évangile extraordinaire où les deux aveugles se précipitent vers Jésus. Nous avons émis l'hypothèse que ces deux aveugles, c'était un couple finalement.
Voilà, et alors tous les deux, ils crient vers le Christ, aie pitié de nous. Et moi, je trouve très beau ce texte parce que justement, c'est plein d'une humanité extraordinaire. Et nous devons nous mettre dans, si je puis dire, à l'école de ces aveugles, c'est-à-dire rentrer dans cette imploration du Christ. Sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. Fais que je vois, fais que je sois libéré de telle et telle difficulté. Et le Christ vraiment regarde ces aveugles et il leur pose une question. Il leur dit, mais crois-tu que je peux faire ça pour toi ?
Voilà, c'est vraiment un regard plein d'amour du Christ, cette interpellation du Christ vis-à-vis de nos personnes, vis-à-vis de nos couples. C'est sur cette question que nous entamons cette pause. À tout de suite. Nous revoilà pour méditer avec vous sur l'évangile pour le couple et notamment l'accueil indispensable de l'Esprit-Saint dans nos vies conjugales. Maud, sur cet Esprit-Saint, c'est vrai que c'est pas facile pour nombre de couples de dire mais comment on fait, on est bloqué pour accueillir l'Esprit-Saint, on ne sait pas faire. Et effectivement, il y a des blocages.
Oui, absolument. Nous avons des résistances, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire des résistances qui viennent de plusieurs choses. D'abord, souvent, on a peur, on se demande, on est inquiet. Qu'est-ce que l'Esprit-Saint va me demander? Où il va m'emmener? Qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est vrai qu'une des premiers points importants dans notre vie, c'est de rentrer dans cette confiance et cet abandon. L'Esprit-Saint ne peut nous mener qu'au bonheur. De quoi avons-nous peur? Faisons-lui confiance, laissons-lui intervenir dans notre vie pour nous transporter, nous transformer, faire de nos vies, je dirais, quelque chose de plus conforme à nos désirs les plus profonds. Mais parfois, c'est un peu inquiétant de se laisser faire par l'esprit, parce que on ne sait pas trop où l'aventure va nous mener. En couple, ça arrive déjà souvent que l'autre nous déstabilise, mais alors avec l'Esprit-Saint, si je puis dire, ça décuple l'aventure du couple.
Alors, ce qui est important de souligner, c'est que de clarifier, c'est notre foi dans l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, ce n'est pas simplement un état religieux, un état spirituel, psychologique. Non, c'est vraiment une personne qui vient, nous dit l'Écriture, nous disent les témoins, qui vient nous inonder, nous transformer. C'est une effusion. Il vient se répandre dans nos cœurs. Et donc, je crois que c'est important de bien sentir qu'il y a une expérience spécifique de l'Esprit-Saint qui n'est pas simplement un état simplement bénéfique et pas simplement, entre guillemets, simplement un état de grâce. C'est vraiment l'Esprit-Saint qui vient nous rencontrer et parfois de manière surprenante. Et on peut prendre, Maud, trois paroles de l'Évangile et des Actes où vraiment il y a eu une expérience très claire de l'Esprit-Saint.
Voilà, une des premières expériences, c'est Pierre, par exemple, quand on voit après la mort du Christ, à quel point ils étaient tous tétanisés, ils avaient peur d'être arrêtés par les Juifs, etc. Et une fois que la Pentecôte a eu lieu et que Pierre a été, entre autres, saisi par l'Esprit, alors il a pu sortir et commencer à annoncer au monde la vérité de cette révélation et de la résurrection.
Ce n'est que l'expérience de la Pentecôte qui est vraiment l'a libéré.
Voilà, et
alors qu'il avait le désir depuis longtemps, etc., il n'y arrivait pas.
Il n'a pu le faire vraiment dans pleine, je dirais, possession de ses moyens et sans peur qu'après avoir reçu l'Esprit-Saint. Et à ce moment-là, Dieu sait si sa parole a été percutante, puisqu'il a touché plus de 3000 personnes ce jour-là. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de sermons qui ont autant d'efficacité que celui de Pierre à la Pentecôte. En attendant, c'était vraiment le signe de la puissance de l'Esprit qui s'était déployée en lui.
Il y a un deuxième texte, on l'a déjà évoqué, c'est les disciples d'Emmaüs. On voit bien que d'une expérience de tristesse à la rencontre du Christ qui leur ouvre l'esprit aux Écritures, ils témoignent après qu'ils sont bouleversés, qu'ils sont transformés, ils ont le cœur tout brûlant. Donc vraiment, il y a comme une effusion de l'Esprit-Saint qui est venu habiter leur cœur et leur vie au travers de cette rencontre du Christ. Donc c'est quelque chose qui a vraiment fait basculer leur vie. Comme aussi, Maud, cette histoire de Cornélius.
Voilà, c'est une très belle histoire qui est dans les Actes, que vous pourrez relire parce que c'est très amusant, de Cornélius qui est complètement saisi par l'Esprit, qui va, à cause d'une sorte d'interpellation qu'il reçoit en lui, il va aller chercher Pierre et demande qu'on lui annonce la bonne nouvelle. Et l'Esprit Saint, avant même que Pierre puisse dire quoi que ce soit, enfin je veux dire, invoquer l'Esprit sur eux, c'est l'Esprit qui vient tout seul.
Alors qu'il était, disent les Actes, alors qu'il était en train de discuter, etc., à un moment, il est dit, à un moment, l'Esprit Saint se répandit sur l'assemblée. Et il fut saisi et loué, il louait et bénissait le Seigneur. Donc c'est bien le signe, la démonstration qu'à un moment le don de l'Esprit Saint, mais il est imprévu, il n'a pas été, c'est pas seulement une maturation, encore une fois, d'un esprit spirituel. Donc c'est bien la preuve que l'Esprit Saint peut agir, non pas contre l'avis des personnes, mais bien en tant qu'Esprit de Dieu, de manière libre et pas simplement une maturation intérieure de ceux qui le reçoivent.
Oui, rappelons-nous la parole que nous avons lue de Nicodème, où Jésus dit lui-même, l'Esprit est comme le vent, il souffle où il veut, tu entends sa voix, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va, mais par contre, tu peux naître de l'Esprit. Donc de la même façon, l'Esprit Saint, on le voit au mouvement, si je peux dire, qui produit dans notre âme, qui produit dans notre cœur. On ne sait pas d'où il vient, quand il va venir et pourquoi il vient, mais quand il est là, on le voit et on discerne son action très facilement dans les cœurs des personnes.
Alors c'est là où justement, on dit souvent, on ne voit jamais l'Esprit Saint. Par contre, on le voit. On reconnaît son passage au niveau des fruits. Et au niveau de la vie conjugale, Maud, je crois que c'est important de bien illustrer que l'expérience de l'Esprit-Saint porte un fruit très concret dans la vie personnelle et aussi enfin, la vie conjugale. Et je veux dire, on en est témoin de tellement de manières dans notre propre vie personnelle, mais bien au-delà. Je veux dire, combien de couples, jeunes, moins jeunes, etc., nous avons vu quand ils ont accueilli la puissance transformante de l'Esprit-Saint, des fruits ont été très très visibles dans leur vie.
Voilà, on reconnaît par exemple plus facilement aussi son péché, on a une sorte de lucidité tranquille sur nous-mêmes, on n'est plus dans une angoisse de reconnaître nos fragilités et nos défauts, aussi parce que justement on est rentré dans une lumière de la foi qui fait que l'Esprit Saint nous remet les choses à leur place, si je puis dire. On n'est pas là obsédé par des petits détails de notre vie et on est au contraire immergé dans une sorte de paix intérieure qui est celle de l'Esprit.
Cette expérience de l'Esprit-Saint dans la vie conjugale conduit aussi, et ça c'est un des fruits les plus visibles, les plus incarnés, à un renouvellement de l'amour et de l'alliance entre les époux. Dans combien de couples cette expérience de l'Esprit Saint fait qu'il y a un amour, il y a une tendresse, il y a un désir l'un de l'autre, jusque même dans la sexualité, qui est comme alimentée et à la fois purifiée. Et c'est une grande richesse. Il y a comme un sentiment d'une plus grande liberté de l'esprit, de l'intelligence, du cœur et aussi du corps.
Je sais qu'il y a quelques personnes qui ont reçu comme ça une vraie effusion de l'esprit et qui ont pu témoigner à quel point ils ont senti comme leur intelligence tout d'un coup se clarifier, comme si un voile était tombé. Et c'est vrai que c'est un des premiers effets de l'esprit, c'est qu'on a une sorte de capacité que nous donne l'Esprit Saint de clairvoyance sur le sens profond des choses, sur la vérité, sur les choses qui sont graves et celles qui ne sont pas. Et on rentre dans une intelligence des choses de l'amour, de l'ordre de l'amour, qui est vraiment exceptionnel.
Et puis aussi, un des dons de l'Esprit Saint, c'est que il y a un amour comme spontanément accru de la parole, de la prière, la louange, la prière, l'action de grâce, la bénédiction de Dieu, la vie sacramentelle, la liturgie est comme davantage désirée, comme plus spontanée, à la fois dans la vie conjugale et familiale, mais aussi au niveau des différentes célébrations d'église. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très naturellement, sans même avoir indiqué certaines choses à ceux qui ont fait cette expérience de l'Esprit Saint. C'est comme un mouvement qui est naturel.
Oui, puis on parlait de la paix du cœur, la paix des profondeurs, celle qui vient de Dieu. On peut aussi, Alex, parler de la joie extraordinaire qui est la joie de l'esprit, qui est une sorte de jubilation intérieure, qui est bien au-delà d'une excitation pour un moment passager, mais qui est vraiment un état qui nous met dans un accueil de la vie, une ouverture aux autres, une vraie joie des profondeurs.
Alors c'est là où tu insistes sur un point très important, c'est que tout cela finalement serait finalement assez égoïste, parce que tous les fruits dont on parle à l'instant, c'est l'expérience personnelle, conjugale, c'est pour nous. Mais que si vraiment cette expérience de l'Esprit Saint est authentique, forcément il y a une telle joie qu'elle ne peut que déborder vers les autres. Elle ne peut que fructifier dans un don. Pour redonner ce don de l'Esprit Saint, si on peut dire. Et c'est vrai que dans ceux qui font l'expérience de cet Esprit Saint, d'abord, puisqu'on parle de couple, d'abord au niveau des enfants, on voit bien qu'il y a un désir, il y a un amour qui est dilaté vis-à-vis des enfants, il y a aussi un désir de pouvoir partager davantage le trésor de l'Évangile en disant « mais c'est pas accessoire, c'est vraiment fondamental ». Et puis, il y a aussi ce désir de vouloir changer de vie, en termes de comportement, d'activité, d'avoir une vie, entre guillemets, qui soit plus conforme à l'Évangile.
C'est un accélérateur de conversion.
C'est un accélérateur de conversion. Un vrai turbo intérieur.
Voilà. En tout cas, c'est vrai que, par exemple, les fruits de l'action de l'Esprit sont aussi justement pour nous faire grandir dans la charité, dans l'espérance, dans la foi. C'est-à-dire que l'Esprit Saint va nourrir en nous les vertus, comme on les appelle, qui sont ces trois pôles sur lesquels nous nous appuyons et qui vont faire grandir en nous notamment la charité, par exemple, à l'égard des autres, à l'égard de nos conjoints et à l'égard de nous-mêmes. On en a besoin aussi, de charité et de miséricorde.
Voilà, en tout cas, c'est cette bénédiction de l'Esprit Saint, cette effusion de l'Esprit Saint que nous implorons sur vos couples, sur vos familles, afin que le Seigneur vienne transformer en profondeur votre vie, votre amour, votre alliance, que ce soit après 3 mois de mariage ou après 50 ans de mariage, que l'Esprit Saint fasse en nous des merveilles. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
The extravagant love of God, the intimate friendship of the Holy Spirit.
Retrouvez Alex et Maud Loriot-Prévost dans leur livre en 3 volumes, L'Évangile pour le couple, aux éditions du Jubilé. May the grand...